Le berger menait ses bêtes sur les terres de sécheresse. Soudain, une lumière étrange le détourna de sa route. Sans craindre qu'il arrivât à son bétail un sort funeste comparable à celui de la chèvre dite de M. Seguin, l'homme se laissa attirer par cette lueur, cette drôle de lueur. Drôle, c'est le cas de le dire. Une lumière lumineuse. Ça paraît idiot, hein ? Autant dire un feu brûlant. Eh bien, justement, ça ne consumait pas. Piqué de curiosité, le berger se déchaussa et fit connaissance avec la lumière. Ayez à chair, ayez. Ce fut la première rencontre, avec tout ce que le mystère peut avoir d'effrayant. Yeux dans la poussière, queue de serpent, chair de neige. Plus tard, le berger se retrouva à la tête d'un troupeau d'une autre sorte. Il ne se détournait plus de son chemin, ayant placé sa confiance en la lumière. Dorénavant, elle était le chemin, même si celui-ci formera un grand détour. Mais tout détour n'est pas déroute, ni dérive d'ailleurs, quand bien même l'arrivée sur la rive fut déroutante. Vint alors le temps, pour la lumière, de jouer sur deux tableaux. Cachée pour l'adversaire qu'elle charriait, elle éclairait la ténèbre du berger. Assurant les arrières de l'homme, elle invitait celui-ci à marcher sèchement le long des murs d'eau. Ce fut la naissance de l'amitié, avec tout ce que peut avoir d'effrayant le souffle impétueux. Yeux sous les flots, abîme solide, cri des chevaux. Enfin, la rencontre se fit faite, tant fixée de joie. L'effrayant demeurait celui qui est, mais se révélait par sa loi. S'il avait d'abord été impossible au berger de bien regarder la lumière, désormais son regard, tout en étant ébloui, s'y était acclimaté. La lumière, en effet, s'était laissée approcher, comme à l'origine. Et comme le renard, elle avait dit « Si tu veux un ami, apprivoise-moi. » L'homme avait du temps et il connaissait les bêtes. Aussi chaque jour venait-il voir la lumière. C'est ainsi que de proche en proche, il put voir la lumière, vraiment la voir, la vraie lumière. Dès lors, son visage en fut tout à la fois ébloui et rayonnant, si bien qu'il était difficile pour les princes de distinguer qui était celui qui est de celui qui devant eux était. Ce fut le temps des heureuses entrevues où le berger parlait avec le berger. Force du Dieu, peau de lumière, yeux dans les yeux. Rayonner, oui, mais comment ? C'est la question qui se pose, j'avais l'impression, pour nous, alors que nous sommes encouragés à rayonner. Et j'avais envie de réfléchir avec vous un petit peu, comment est-ce qu'on parvient à rayonner ? Je vous ai raconté ici l'histoire de Moïse, qui a rayonné, qui a connu quelque chose d'extraordinaire. Il a vraiment rayonné, son visage brillait. Et j'étais interpellé par ça, et j'avais envie de discuter, de réfléchir avec vous à cela. Alors, en introduction, je voulais simplement, très rapidement, revenir sur le parcours de Moïse. Est-ce que tu peux mettre le slide suivant ? D'abord, en Exode 3, Moïse rencontre la lumière. C'est une rencontre étonnante. Un feu qui ne consume pas le buisson, et il y a différents prodiges. Un bâton qui se transforme en serpent, un serpent qui se retransforme en bâton, une main qui devient dans le manteau, aussi blanche que neige. Et cette première rencontre, c'est le moment des présentations. Dieu se présente à Moïse et lui dit « Je suis celui qui suis ». Et cette rencontre est évidemment aussi une rencontre mêlée de craintes. Le lieu de la révélation est un lieu saint. Et Moïse doit enlever ses sandales pour y entrer et il se cache le visage de peur de voir Dieu. La deuxième étape que je marque, disons, en Exode 13-14, tu peux mettre, c'est se confier en la lumière. Au moment où le peuple hébreu quitte l'Égypte, Dieu s'incarne. Le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. La lumière est désormais devant, et Moïse, qui est chargé de conduire le peuple, suit lui-même, est lui-même conduit par cette lumière. Il suit Dieu qui montre le chemin. Et évidemment, entre Exode 3, la rencontre au Sinaï et la sortie d'Égypte, eh bien, il y a une confiance qui s'est établie entre Moïse et son Dieu. Il y a quand même derrière l'expérience des 10 plaies, où Moïse et tout le peuple hébreu ont pu constater la puissance de l'Éternel. Et la traversée de la mer Rouge arrive ainsi comme un nouveau moment où Moïse peut expérimenter la fidélité de Dieu. Et après cela, eh bien, il sera prêt à le suivre pendant 40 ans. Donc c'est important de rappeler que Moïse y connaît un parcours, il connaît une trajectoire, et que son rayonnement, il n'est pas instantané. Ce parcours, il peut être plus ou moins long, et peut-être que certaines étapes peuvent être sautées, mais en tout cas, dans le récit de l'Exode, Moïse connaît ses rencontres successives avec son Dieu. Et j'aimerais, vous l'avez compris, me concentrer ce matin sur cette dernière étape qui consiste à être la lumière, à rayonner. Alors, il y a une première série de rencontres entre l'Éternel et Moïse au mont Sinaï, à la fin desquelles Moïse redescend de la montagne avec les tables de la loi gravées par le doigt de Dieu lui-même. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un problème, parce que le peuple hébreu, pendant l'absence de Moïse, s'est construit une idole qu'on appelle le veau d'or, qui était plutôt un jeune taureau. C'est pas un petit veau qui vient de sortir du ventre de sa mère, c'est un jeune taureau. Et cet élément est important et on verra pourquoi plus tard. Ensuite, en Exode 33, Moïse dresse la tente de la rencontre. Et en Exode 34, il remonte une nouvelle fois au Sinaï pour y graver cette fois lui-même les commandements de l'Éternel, puisqu'il avait brisé les tables de colère en voyant le péché du peuple. Et là-haut, il reste un certain nombre de jours et de nuits, 40 jours et 40 nuits, durant lesquels la Bible dit qu'il ne mange ni ne boit. Et c'est à la fin du chapitre 34 qu'il redescend, et c'est sur ce passage que j'aimerais m'arrêter avec vous. Est-ce que tu peux mettre le texte, s'il te plaît? Exode 34, 29 à 35. Moïse descendit du mont Sinaï, les deux tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Moïse les appela et Aaron et tous les chefs de l'assemblée vinrent vers lui et il leur parla. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait dans la présence de l'Éternel pour parler avec lui, il retirait le voile jusqu'au moment où il ressortait, et quand il sortait, il transmettait aux Israélites les commandements qu'il avait reçus. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il entrait pour parler avec Dieu. Tu peux mettre le slide suivant. En 7 versets, on a 3 fois le soulignement de l'élément suivant, hein. La peau du visage de Moïse rayonnait. Et le fait que cela arrive autant de fois, ça montre qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe au retour de Moïse du mont Sinaï, lorsqu'il redescend la deuxième fois. Et l'histoire, elle a bien voulu souligner ça, ce quelque chose de spécial. Et par ailleurs, à côté du rayonnement, tu peux mettre le suivant, on remarque que l'accent, il est aussi mis sur l'importance de la parole, du dialogue, du fait de parler. Hein, et c'est un verbe qui revient à de nombreuses reprises. Alors, j'aimerais avec vous ce matin essayer de réfléchir comment s'articule dans ce texte la parole et le rayonnement. Tout d'abord, si Moïse rayonne, eh bien on voit au verset 29 que c'est parce qu'il avait parlé avec l'Éternel sur le Sinaï. Ainsi, ce fait étonnant qui arrive à Moïse, ce mystérieux rayonnement, hein, eh bien, la première fois qu'il est mentionné, et c'est la première fois que cet élément survient dans la Bible, hein, il est très fortement lié à l'intimité que Moïse a partagée avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Hein, une intimité ici qui s'est aussi manifestée à travers un jeûne absolu. Et deuxièmement, toujours au verset 29, le texte donne un détail qui m'a interpellé. Moïse n'est pas conscient du fait qu'il rayonne. Il n'est pas conscient du rayonnement qui émane de lui. Et c'est sans doute, on peut imaginer que c'est en voyant les Israélites et leur réaction, le fait qu'ils aient peur, qu'ils se disent « il y a quelque chose de spécial qui se passe, pourquoi est-ce qu'il ne s'approche pas de moi ?» Hein, il doit leur sommer de venir, hein, pour qu'ils puissent enfin oser s'approcher de lui. Et là, il parle aussi. Il parle avec eux. Et sans doute, c'est dans ces échanges-là qu'il comprend qu'il y a quelque chose, qu'il peut avoir le témoignage de la part des Israélites, d'Aaron et des autres princes des fils d'Israël, hein, qui peuvent lui expliquer, écoute, ben, t'as la peau qui brille. T'as la peau qui brille. Cette lumière, le texte hébreu raconte ce rayonnement, le texte hébreu raconte qu'elle est aussi une puissance. Tu peux mettre les images, s'il te plaît. Ici, on a deux représentations de Moïse. La première, c'est une sculpture de Michel-Ange. Et la deuxième, on le voit, c'est Moïse sur un vitrail. Vous voyez, il a en jaune, en bas, hein, les deux tablettes, les deux tables de la loi. Qu'est-ce qui est particulier sur cette image ? Moïse, il a des cornes. Pourquoi est-ce qu'il a des cornes ? Parce que le mot qui est utilisé pour dire « rayonner », eh bien, les rayons, c'est « karan ». Et « karan » partage la même racine que Keren, qui en hébreu veut dire les cornes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Moïse descend du Sinaï, la deuxième fois, sa peau resplendit, et dans ce rayonnement, l'hébreu dit aussi que Moïse est investi et revêtu de l'autorité de l'Éternel. Parce que dans le Proche-Orient ancien, les représentations des dieux avec des cornes, c'était un symbole de puissance et d'autorité. Et pourquoi c'est particulièrement intéressant ici ? Parce que la première fois qu'il redescend, qu'il descend du Sinaï, Moïse a eu affaire à un peuple qui s'était représenté Dieu à travers une idole d'un taureau, avec des cornes. Et là, au moment où il redescend la deuxième fois, il vient dire, voilà où est la puissance ? Voilà où est l'autorité ? Évidemment, il ne le fait pas consciemment, mais c'est Dieu qui met cette puissance en lui à travers l'intimité qu'il a partagée. Et je trouvais intéressant d'avoir ces représentations d'un Moïse cornu qui ne veut pas du tout dire un Moïse diabolique. Hein. D'ailleurs, si on remet l'image, on voit bien dans l'image de droite du vitrail que ses cornes, elles sont dorées, comme si c'était les rayons, justement, qui sortent de lui, hein, et qui viennent percuter, qui viennent éblouir, hein, avec toute la puissance de l'Éternel. Alors, Il me semble que là, à travers ces premiers éléments, on a quelque chose d'important que nous pouvons comprendre. Si je peux aspirer, si je peux désirer de vivre une telle intimité avec Dieu, il ne s'agit pas de me regarder dans le miroir tous les jours pour voir si je commence à briller. En fait, la manière dont le récit est construit indique quelque chose dont il faut prendre conscience. D'une part, le rayonnement chez Moïse est complètement désintéressé. Il n'y avait pas pensé et ça ne lui vient pas à l'esprit. Il ne s'en rend pas compte. Ça, c'est le premier élément. Et d'autre part, c'est par la bouche des autres que ce rayonnement sera manifesté. Apparaissent ici, à mon avis, deux clés fondamentales. Premièrement, je ne dois pas me mettre de pression vis-à-vis de Dieu. Il ne s'agit pas d'une course à l'intimité au bout de laquelle il y aurait une récompense. L'intimité n'est pas un moyen d'obtenir quelque chose. Ah, je veux le rayonnement, alors je vais voir souvent Dieu. L'intimité, c'est l'intimité elle-même qu'il faut rechercher, pour elle-même. Okay ? Premier élément. Et deuxième clé, c'est un piège dans lequel on pourrait tomber. Et ce piège, c'est le désir de reconnaissance. On pourrait se dire qu'on va être attentif au regard d'autrui pour évaluer notre progression, notre avancée dans l'intimité. Mais c'est évidemment une fausse piste. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on expérimente l'intimité, le regard d'autrui il tombe tout de suite. Parce que dans le rendez-vous avec Dieu, dans le face-à-face avec l'Éternel, je suis moi avec lui. Et ce qui est autour n'importe pas. Et cet élément, il est aussi souligné par le texte, et c'est la deuxième chose que j'aimerais aborder. On voit dans cet épisode de la vie de Moïse que dans la présence de Dieu, il n'y a rien d'autre que le face-à-face. Et cet aspect, il est souligné de deux manières. Tu peux remettre le texte. D'abord, laisse comme ça, c'est bon. D'abord, l'échange sur le Sinaï se passe au sommet et semble coupé du monde. Et il semble tout d'un coup être hors du temps. Il arrive, on sait qu'on peut jeûner 40 jours sans manger. Mais là, il ne boit pas pendant 40 jours. C'est comme s'il était déplacé ailleurs. Comme si ce rendez-vous sur le Sinaï était pour lui une expérience coupée du reste. Et puis, deuxième chose, ce temps de l'intimité prend place dans des lieux particuliers, dans des lieux isolés, le sommet du Sinaï, mais aussi dans ce qu'on appelle la tente de la rencontre. Est-ce que tu peux mettre le slide avant les images, s'il te plaît ? Voilà. Et c'est sur ce deuxième lieu de rencontre que j'aimerais m'arrêter désormais. On voit le mouvement du texte. On a trois mentions donc, de la peau du visage qui rayonne au verset 29 et verset 30. Et ça, c'est au moment où Moïse redescend du Sinaï. Mais la troisième mention de cette peau rayonnante, elle vient ailleurs. Elle suit le verset 34 où il est dit que Moïse entrait dans la présence de Dieu pour parler avec lui. Et là, c'est un autre lieu. Et cet autre lieu, justement, c'est la tente de la rencontre. Quand Moïse entrait dans la présence de l'Éternel, le guide du peuple hébreu n'entre pas n'importe où dans la présence de l'Éternel. Voilà, tu peux passer, et j'aimerais juste vous lire Exode 33, revenir un petit peu où cette tente de la rencontre est décrite. Vas-y, avance, s'il te plaît. Voilà. Exode 33, 7 et suivant. Moïse prit la tente et l'adressa à l'extérieur du camp à une certaine distance. Il l'appela « tente de la rencontre ». Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre à l'extérieur du camp. Lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse, face à face, comme un homme parle à son ami. Moïse entre dans un lieu clos, la tente, un lieu qui est coupé du regard d'autrui. Et de manière étrange, lorsqu'il entre dans la tente, on pourrait se dire, oh, en présence de l'Éternel, il faut qu'il se voile. Et bien, c'est là qu'il se dévoile, c'est là qu'il ôte le voile, qu'il était obligé de mettre en présence de ses copains à l'extérieur de la tente, parce que la lumière qui jaillissait de lui était trop puissante pour les autres. Et il devait se voiler. Il entre dans ce lieu clos, coupé du regard détruit, et on comprend bien que la recherche de la reconnaissance des autres, elle tombe complètement lorsqu'on est dans la tente. C'est un temps qui est privilégié pour Moïse, où tombent toutes les pressions des nombreuses sollicitations qu'on lui faisait. On peut penser qu'en tant que responsable du peuple hébreu, il y avait des demandes qui venaient. Non, là, désolé, je laisse ces demandes à l'extérieur et je vais parler avec mon Dieu. Alors, j'aimerais souligner deux choses que je trouve géniales dans cet extrait d'Exode 33. Remets le slide suivant. D'abord, c'est le choix du nom. C'est Moïse qui choisit d'appeler ça le lieu de la rencontre. Et c'est magnifique comme nom. Parce que c'est le rendez-vous. Mais c'est aussi plus que cela. C'est aussi plus que cela. Ce qui me plaît, c'est que Moïse a choisi un mot qui est aussi la fête. La tente d'assignation, comme on la traduit parfois, la tente de la rencontre, la tente du rendez-vous, c'est aussi la tente de la fête. Comme si c'était une fête à une date fixe, comme une grosse fête annuelle, hein, ou hebdomadaire, ou quotidienne. Vous voyez, Moïse appelle cette tente, le lieu où je vais rencontrer mon Dieu, ça sera le lieu de la fête. La fête à un moment fixé. Et la deuxième chose que je trouve géniale, passe au suivant, c'est qu'on le voit à la fin, c'est que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Face à face, les yeux dans les yeux. Alors qu'il est dit toujours dans ce livre de l'Exode que quiconque verra l'Éternel de face mourra. Quel privilège pour Moïse. Face à face, qu'est-ce que ça dit aussi? Ça dit aussi le même niveau sur lequel les deux interlocuteurs se retrouvent. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire dans ce texte. C'est que le mot « ami », c'est la même racine que le mot « berger ». C'est la même racine que le mot « berger ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moïse, qui est un berger, va rencontrer le berger. Il ne va plus rencontrer quelqu'un qui est différent de lui. Dans l'attente de la rencontre, dans l'intimité avec l'Éternel, ce qui se passe, c'est qu'on a un rapport d'identité avec le Créateur. Et on se rend compte que Dieu nous a fait, que Dieu m'a fait. Je me rends compte dans l'intimité que Dieu m'a fait à son image. Et c'est dans le dialogue, dans la discussion, dans l'échange, dans le papotage avec mon Dieu, que je me rends compte, petit à petit, que je suis fait à son image et que je lui ressemble de plus en plus. Au point pour Moïse, il commence tellement à lui ressembler, vous connaissez cette expression, hein, être transformé de gloire en gloire. On le voit bien dans l'histoire de Moïse ce que ça veut dire concrètement. Dans l'intimité avec son Dieu, Moïse est transformé de gloire en gloire et son visage devient comme celui de l'Éternel. Son visage devient comme celui de l'Éternel. Dans l'intimité, on comprend. Alors, je voudrais conclure par la chose suivante, c'est que j'ai toujours envisagé ce message comme un encouragement de ce matin. J'aimerais vous encourager à l'intimité. j'aimerais vous encourager à l'intimité. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez ce matin, c'est ça. J'aimerais vous encourager à l'intimité. Parce que c'est par l'intimité qu'un rayonnement est possible. C'est lorsque je vais discuter avec Dieu, et c'est ça qu'il faut bien entendre aussi dans ce mot « parler » qui revient constamment dans Exode 34, 29, 35. Ce n'est pas Dieu uniquement qui parle à Moïse. Dans l'intimité, moi je parle à Dieu. Le face-à-face dit un échange de la parole, une circulation de la parole. D'accord ? Et le témoignage, et ça, ça me semble important pour la saison dans laquelle on est maintenant, dans cette communauté, le témoignage, qu'est-ce que c'est ? Nous sommes encouragés à rayonner. Mais le témoignage, c'est le fruit de l'intimité. Pas d'intimité, pas de témoignage. Le témoignage, qu'est-ce que vous allez raconter si vous rencontrez pas Dieu ? Ben, vous allez rien raconter. Le témoignage, c'est partager l'expérience intime que vous avez de Dieu. Et dans l'intimité, et ça me semble aussi important pour les temps qui sont là, mon témoignage, à travers l'intimité que j'ai avec le Père, il acquiert une puissance, il acquiert une autorité. Et cette puissance, cette autorité, symbolisée par ce rayonnement, peut-être un peu ces cornes mystérieuses, hein, je vous le rappelle, elle n'est pas le propre de Moïse. Ce n'est pas Moïse qui en est conscient. Cette intimité, cette puissance, c'est Dieu qui nous la confère. Okay ? Donc soyez encouragés à l'intimité et soyez confiants que de l'intimité viendra aussi l'autorité. Viendra aussi l'autorité. Et j'aimerais terminer avec ça, avec ceci, pardon. J'aimerais mettre l'accent sur le lieu de la rencontre. Moïse a compris quelque chose lorsqu'il a appelé cette tente, tente de la rencontre. Et il a compris que Dieu l'attendait à un temps fixé. Rencontre, c'est le temps fixé, le rendez-vous, un temps marqué. Mais c'est aussi un temps de fête. Et mes amis, Dieu prépare le rendez-vous et Dieu est excité à l'idée de vous voir dans le lieu de la rencontre. Et il prépare ce lieu. Il met les petits coussins, il a préparé les dips et les mayonnaises, il le prépare, il a mis les ballons, il attend, il est excité, il se réjouit. C'est une fête, c'est une fête. Mon ami, est-ce que tu veux venir à une fête que j'organise pour toi ? Et à cette fête, on sera tous les deux. C'est ça, l'attente de la rencontre. Alors, j'aimerais vous inviter ce matin à fermer les yeux. Parce que j'aimerais qu'on puisse ensemble demander à Dieu qu'il présente, qu'il nous fasse voir pour chacun d'entre nous le lieu qu'il prépare pour nous, le lieu qu'il prépare pour toi, le lieu qu'il prépare pour moi. C'est un lieu personnel. Où est-il ? Je ne sais pas. Où est votre tente ? Où est ta tente de l'intimité ? Où est ta tente de la rencontre ? Seigneur, nous te louons parce que tu n'as qu'un désir, c'est de nous avoir tout contre toi. On a chanté tout à l'heure pendant la louange, garde-moi près de toi. Et j'aimerais un petit peu renverser ça. Seigneur, je veux venir près de toi parce que je sais que tu prépares la tente de la rencontre et que c'est un lieu de fête. Alors Saint-Esprit, souffle maintenant Et mes amis, je vous invite à recevoir, à accueillir l'image du lieu que Dieu prépare pour chacun d'entre vous. Voilà mes amis, recevez la douceur de Dieu, ressentez son excitation qu'il a à préparer l'attente de la rencontre. Et sentez-vous ce matin pleinement invité à venir manger les chips qu'il a préparées.